Les quatre saisons. Une personnalité.
Nom.
Truc.
Prénom.
Jean-Luc.
Profession.
Avocat de profession.
Une interview loin des studios.
L'histoire a façonné nos collines et on fait de cet endroit un endroit où on n'a que de la mixité.
Du temps pour aller débusquer ce qui fait avancer l'invité.
La passion. Vraiment la passion de la chose publique.
Pour vivre l'actualité à travers les confessions de ceux qui la font.
Il y a effectivement une personne à qui j'en voudrais toute ma vie.
Je voudrais être tout à fait transparent avec vous.
Salut, c'est Imane Messoudi. Désormais, le podcast Les 4 saisons va donner la parole à une personnalité politique dans un lieu qui lui est cher. Direction cette semaine Franley-en-Vin, en Wallonie-Picarde, à la rencontre de Jean-Luc Cruc.
Les 4 saisons, le podcast qui vous raconte la politique belge à l'ère de la Vivaldi.
Jean-Luc Cruc, bonjour.
Bonjour.
On est ici du côté de Franley-en-Vin. C'est là où vous habitez depuis très longtemps. On est sur une colline. Racontez-nous un petit peu pourquoi on est venu ici.
Et vous avez d'abord un paysage qui est un paysage magnifique où l'histoire a façonné nos collines et on fait de cet endroit un endroit où on n'a que de la mixité. D'abord la mixité entre la Flandre et la Wallonie. Vous êtes sur la frontière linguistique, personne ne voit cette frontière. Les habitants sont quasiment aussi wallons ou flamands lorsqu'ils habitent à Franley-en-Vin que lorsqu'ils habitent à Rennes. Et puis vous avez ce creux de vallée. Les collines, c'est ça, ça monte et ça descend. Et donc ce sont ces vallées qui aussi ont réuni les centres de population. Et vous avez un peu plus d'habitants dans le centre et puis un peu moins sur les collines. Et on essaie alors de garder ça, cette rareté, d'éviter le mitage. C'est un combat de tous les jours, ça. C'est de garder cette beauté, c'est celle qui fait le bonheur.
Vous parlez de mixité, ça vous résume la mixité?
Ah, je crois que c'est ça le beauté de la vie, c'est la mixité. Je plains les gens qui ressemblent, qui systématiquement doivent ressembler à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'on s'emmerderait si on devait tous se ressembler? Moi, je crois que c'est cette mixité qui nous permet à la fois de créer ce que j'appelle le climat de tolérance, mais aussi de se diversifier dans la beauté. L'autre n'est jamais aussi beau que parce qu'il est différent.
Alors, c'est très joli, effectivement, cette vue, hein, Jean-Luc Cruc. Mais il y a beaucoup de vent aujourd'hui, alors pour continuer cet entretien, je vous propose d'aller nous mettre à l'abri.
Je crois de moins en moins cette particratie. Je crois même qu'elle est dangereuse pour la démocratie.
Alors Jean-Luc Cruc, vos grands-parents, vos parents, et vous-même d'ailleurs, n'êtes pas d'ici, de Franley-en-Vin, où nous sommes actuellement, mais de Rennes, pas très loin d'ici. Rennes, c'est une commune flamande, une commune à facilité, sur la frontière linguistique. Hein. Alors, on se trompe si on dit de vous que vous êtes initialement un francophone de Flandre.
Oui, parce que moi, je considérais être d'abord un alvenal qui est tombé follement amoureux de la Wallonie, mais sans doute aussi parce que j'ai vécu un peu ce bashing, ce renversement de tendance où la Flandre dominante essayait, pas de martyriser, n'exagérons pas dans les mots, mais essayait de taper sur une Wallonie qui commençait à connaître ses difficultés. Et comme chez moi, on a toujours parlé les deux langues, français, flamand, et que tout le monde est un peu de partout finalement, je crois que c'est une manière aussi d'être que de défendre les plus faibles.
Premier grand virage dans votre vie, vous étiez étudiant libertaire, hein, dans un groupe alternatif libertaire, vous vouliez aller chahuter Jean Gaul un soir dans un auditoire et puis vous tombez sur lui et il vous séduit.
Oui, mais c'est tout à fait ça. C'est aussi bête, mais aussi passionnant que ça. Mais quelque part, peut-être que Jean Gaul a aussi ouvert chez moi une forme de conscience dans la conscience en se disant « arrête de jouer ». Parce que c'est vrai que quand on était étudiant, c'est facile d'être à gauche ou à extrême gauche parce qu'on voulait faire la révolution. On voulait
changer le monde.
Oui, révolutionner le monde, changer le monde. Et puis, en écoutant Jean Gaul, je me suis dit, mais il y a quand même une série de choses que Jean Gaul dit auxquelles j'adhère et auxquelles je pense. Et donc, allez, soyons, si c'est possible, ensemble, dans une forme de dialogue. Et le dialogue, il m'a emporté avec lui, parce qu'il a même voulu que j'aille travailler à Liège dans son cabinet d'avocat à un moment donné, ce que j'ai refusé, parce que j'étais déjà amoureux d'une fille qui m'était tournée. Et je me suis dit, c'est un peu loin, faire Liège,
loin,
tourner.
Là, oui.
Enfin, toutes ces bêtises-là. Mais par contre, la passion pour Jean Gaul est restée.
Alors, on le sait moins aussi, mais vous aviez un oncle bourgmestre de Rennes, socialiste.
Oui.
Votre mère, par contre, elle était plutôt libérale, et c'est votre mère qui a gagné, entre guillemets.
Oui, c'est vrai. Est-ce que vous ne savez pas non plus, c'est que j'ai encore été avec mon oncle au bureau du Socialiste Partei, parce que c'était le Parti Socialiste Flamand, le SPA, et puis le SPA après, d'abord le SP, et j'ai encore été à une réunion du bureau du parti avec mon oncle. Évidemment, on n'imaginait pas qui j'étais, mais ça aussi, je crois que j'ai gardé cela, parce que la première campagne électorale, je l'ai faite avec mon oncle dans René pour le soutenir. Bon, c'est un, vous savez, vos origines, s'il y a bien une chose dans la vie qu'il ne faut jamais, jamais occulter, ce sont vos origines. On doit savoir d'où on vient, ce qu'on est, pour encore faire de même mieux que ce qu'on fait, ce qu'on est ou d'où on vient.
Alors, vous décrivez un petit peu votre pédigré, et il est parfaitement belge, en fait, comme vous disiez, un half-and-half. On pourrait même dire que vous êtes belgicain, d'une certaine façon. Enfin, vous pourriez être belgicain, et pourtant, vous êtes un régionaliste convaincu à 100%. Comment vous expliquez ce paradoxe ?
Oui, je ne suis pas du tout belgicain, mais alors pas du tout, et je ne crois d'ailleurs pas à cette théorie d'une Belgique qu'on voudrait faire revivre comme elle a vécu à l'époque. L'évolution des institutions, c'est aussi ce qui peut permettre de rapprocher les gens de leurs institutions. Et c'est pour moi une des grandes difficultés aujourd'hui, c'est que parfois on ne voit plus clair. Certains ne veulent pas voir clair, mais d'autres ne comprennent plus rien. Or, je trouve que la richesse de la Belgique, c'est d'avoir justement quatre régions différentes, avec des différences, et de mettre ces quatre ensemble pour alors faire un État, mais pas l'inverse. J'ai une tendance d'ailleurs à croire aujourd'hui que lorsqu'on parle de fédéral, enfin tous ceux qui me disent qu'ils aiment la Belgique et qui ne parlent d'ailleurs même pas le flamand généralement, mais quand on veut faire de cela du fédéral un modèle, écoutez, ce qui est fédéral aujourd'hui est souvent flamand.
Ça vous a meurtri quand vous avez vu le virage qu'a pris la tête de votre parti à ce niveau-là ?
Pas meurtri, parce que j'aime beaucoup la contradiction et j'aime cette différence. Je ne la partage pas, mais il m'appartenait aussi de dire que je ne la partage pas. Si on avait voulu me faire taire, ce qui n'a jamais été le cas, je crois que c'est une des richesses du Parti libéral, je ne me serais pas tu. Mais vous savez, dans la vie politique et dans l'histoire, on voit bien qu'il y a des hauts et des bas, et puis il y a les tendances qui changent. Mais ce serait une erreur de ne pas pouvoir gagner le combat de demain. C'est celui de sauver la Wallonie. Et je suis persuadé que pour tout homme politique qui veut marquer, non pas l'histoire, mais marquer de sa volonté le changement, c'est en Wallonie qu'il faut faire le travail.
Je vous dis ça parce qu'il y a quelques années, en 2015 environ, vous et un de vos proches, Pierre-Yves Géolet, aviez lancé une espèce de bombe, enfin, une attaque très forte par rapport à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Aujourd'hui, vous allez quitter la vie politique et Pierre-Yves Géolet dirige l'institution qu'il voulait avec vous absolument faire tomber. Voilà, on en est loin de vos rêves, entre guillemets, de votre combat politique qui était audible, en tout cas au sein de votre parti, il y a quelques années, qu'il n'est plus trop aujourd'hui.
Oui, mais je crois que ni Pierre-Yves ni moi-même n'avons changé, d'ailleurs, à cet égard-là, en tout cas, de conception. Il est toujours régionaliste, pour le connaître quand même très bien, puisque c'est ce que j'appelle souvent un des rares amis que j'ai en politique. Mais non, on a gardé cela. Mais la réalité belge fait en sorte que vous n'avez pas, aujourd'hui, de majorité pour le faire. Et donc, il faut alors faire travailler les institutions dans lesquelles vous êtes. C'est ce qu'il fait, lui, à la Fédération Wallonie-Bruxelles. J'ai envie de dire qu'il le fait parfaitement bien, et je ne le dis pas uniquement pour le faire plaisir, mais pour ça aussi, un peu. Et puis, il y a cette réalité de région. Vous savez, moi, je n'oppose jamais les Bruxellois aux Wallons, ni la Flandre aux Bruxellois et aux Wallons. Je dis simplement, chacun a ses spécificités. Mettez-les en valeur. Faites de vos spécificités des richesses. Soyez-en fiers, mais permettez aux autres aussi de le faire.
Nous sommes en hiver. C'est la première des quatre saisons que nous allons aborder avec vous, Jean-Luc Cruc. C'était le 10 janvier dernier. Vous annoncez votre démission du gouvernement Wallon.
Coup de tonnerre dans le ciel politique avec l'annonce ce matin de la démission de Jean-Luc Cruc.
Il quitte carrément la politique. L'homme ne se retrouve plus dans la ligne du MR.
Des convictions qui sont des convictions libérales ne sont cependant plus en pleine adéquation avec la ligne de mon parti.
Jean-Luc Cruc redeviendra simple député wallon avant de reprendre sa casquette de juriste pour être le candidat du MR à la Cour constitutionnelle.
Vous partez pour des raisons qui sont rarissimes, voire même en fait inédites. Vous partez parce que vous n'êtes plus en accord avec votre parti. D'habitude, quand les gens partent, c'est parce qu'ils ont été minorisés au sein de leur gouvernement ou il n'y a plus de confiance par rapport à la tête du parti. Ici, c'est vous qui partez de vous-même. Personne ne vous demande de le faire.
Tout à fait. Et que ce soit inédit ou pas, n'a pour moi aucune importance. C'est plus une question de conscience par rapport à soi-même et par rapport aux autres. À partir du moment où vous ne pouvez plus, parce que vous n'êtes pas d'accord, défendre la ligne idéologique de votre parti. Et je le dis, ligne légitime, c'est le président
vous
qui
la
prime.
Cette...
À partir du moment où vous ne pouvez pas faire ça parce que vous n'êtes pas en accord avec cela, mais le minimum, c'est de dire, il y en a d'autres qui doivent te représenter, mais pas moi. Et vis-à-vis également de ceux qui vous font confiance, de vos électeurs, mais des autres partis aussi, c'est de dire, attention, ce n'est pas lui le représentant. Donc il n'y a aucun regret de ma part. À refaire, je pose le même geste.
Vous en aviez marre de la fermer, comme disait Jean-Pierre Chevènement, un ministre, ça démissionne ou ça ferme sa gueule?
J'ai jamais essayé de la fermer. Et on m'a d'ailleurs toujours autorisé à l'ouvrir. Mais ici, les différences devenaient, dans certains dossiers, trop fondamentales et pour moi même essentielles. Vous savez, je vais prendre celui qui parfois fait, paraît-il, le moins polémique, mais qui pour moi est essentiel. Le nucléaire, par exemple. Moi, je ne peux pas accepter aujourd'hui d'entendre qu'on va rouvrir du nucléaire, du nouveau nucléaire, du petit nucléaire, avec des déchets, mais qui sont toujours là. On n'a toujours pas trouvé une solution aux déchets nucléaires. Voilà, on avait un consensus auparavant en partie, cette ligne a changé. J'en prends acte, mais ne me demandez pas de défendre ça.
Il n'y a quand même pas un regret, à partir du moment où votre travail était salué, vous entendiez bien avec les partenaires de gouvernement. Et en plus, ça risque d'affaiblir la région pour laquelle vous vous battez depuis tant d'années.
Alors, dire qu'il n'y a pas de regret, il y a toujours du regret quand vous avez réussi à nouer autant d'amitié avec ceux avec qui vous travaillez. Et je prends le terme amitié dans son sens le plus simple, c'est-à-dire sous la forme du respect. C'est vrai que ce soit avec les écologistes, avec les socialistes et même avec des libéraux, le contact était bon. Je sais bien que parfois je faisais ce qu'on appelle le trait d'union entre les uns et les autres. Mais la vie politique, c'est aussi des idéologies qui sont exprimées par des partis. Je vous le dis, je crois de moins en moins à cette particratie. Je crois même qu'elle est dangereuse pour la démocratie, que si on ne change pas la manière de fonctionner et de nos partis et de cette vie politique à travers les partis, on va sans doute encore donner beaucoup de grains à moudre aux extrêmes qui ne sont jamais, mais alors là, jamais une solution. Je veux croire aussi qu'il y a moyen de vivre ensemble.
Direction le printemps, Jean-Luc Cruc, le 19 juin 2017, Benoît Lugène, le président du CDH, fait sauter le gouvernement wallon.
La rupture est nécessaire, elle doit être immédiate.
C'est un scénario qui ne s'était jamais produit dans nos entités fédérées. C'est donc la surprise la plus totale.
Les carottes étaient cuites. Même les plus laïcs au MR ont cru au miracle.
Un petit mois plus tard, vous entrez au gouvernement. À ce moment-là, vous vous dites quoi? Vous vous dites « enfin ».
Il y a un peu de ça, mais il y a un autre côté marrant. C'est que tout le monde connaît mes affinités laïques. Je n'ai jamais caché cela, à savoir que j'étais favorable à des majorités laïques. Je l'ai d'ailleurs fait chez moi, dans ma commune aussi. Et puis, finalement, le contre-pied, c'est que c'est avec les catholiques, avec le CDH, que nous rentrons dans une majorité au gouvernement. Écoutez, c'est aussi la volonté de pouvoir commencer à exercer ses responsabilités là où je ne l'avais jamais fait auparavant. Et donc, sûrement, vous ne dites pas non à ce genre d'expérience, parce que c'est comme ça que je l'ai vécu.
Alors, cette laïcité affirmée, revendiquée, elle vous rapproche naturellement de la famille socialiste. Actuellement, vous qualifiez Pierre-Yves Dermagne d'ami. Vous pensez, vous aussi, qu'il faudrait peut-être un pacte laïque, comme on a fait un pacte scolaire à la fin des années 50? C'est par exemple ce que défend Pierre-Yves Dermagne.
Mais je n'irai pas jusqu'à un pacte laïque, mais il n'y a rien d'honteux à être laïque, et donc on doit pouvoir se revendiquer. Et c'est vrai que Pierre-Yves Dermagne est un ami. C'est clair que ce pays est ancré dans une tradition judéo-chrétienne. Vous ne pouvez pas non plus l'oublier. Mais est-ce pour ça que ceux qui ne sont pas judéo-chrétiens ne pourraient pas avoir autant de droits que les autres? Moi, je ne crois pas. Et donc, oui, on doit être fier de ce qu'on est. Quand quelqu'un me dit qu'il est croyant et qu'il croit, donc, eh bien, je suis heureux pour lui qu'il fasse la même chose à mon égard. Et si on fait ça, on se respecte.
Ces dernières années, quand même, le débat sur la laïcité a beaucoup porté, en fait, plutôt sur la place de l'islam dans la société.
Oui, vous avez raison, la place de l'islam, mais il y a d'autres combats qui ne sont pas terminés. Bon, s'il y a bien une chose qui me frustre dans le débat aujourd'hui politique, c'est l'avortement. Moi, je ne peux pas comprendre qu'on n'aille pas jusqu'au bout de ce dossier. Et voilà, je suis libéral, d'autres sont socialistes, on défend les mêmes choses à cette égard-là. Mais vraiment, je ne comprends pas que des partis laïcs et accepter de ne pas aller jusqu'au bout parce que ça chagrinerait l'un ou l'autre. Écoutez, une démocratie, à un moment donné, c'est ça. Et je ne vais pas du tout contourner votre question sur la place de l'islam dans la société, mais je crois que si on avait justement un peu moins de poids derrière le terme « islam » un pouvoir religieux, on s'en sortirait beaucoup mieux. Parce que je veux croire aussi qu'il y a moyen, peu importe la croyance des uns et des autres, de vivre ensemble. C'est ça que nous devons réussir à faire. Il y a effectivement une personne à qui j'en voudrais toute ma vie.
Direction l'automne, le 11 octobre 2014, le gouvernement Michel prête serment. Un gouvernement dirigé par l'EMR, avec la NVA, un gouvernement à même de porter un programme de droite en Belgique. On va écouter une petite archive. Vous étiez l'invité de Matin Première, c'était le 24 octobre 2013.
On peut quand même pas reprocher à un parti comme la NVA de vouloir rejoindre des thèses libérales que nous exprimons depuis 150 ans dans ce pays. Alors si un nouveau parti flamand qui s'appelle la NVA, sur son programme social et économique, veut ressembler à du libéralisme, je dis bien veut ressembler parce qu'il y a encore une marge et on pourra en discuter très longtemps, moi je vais pas lui reprocher.
Voilà, ce jour-là, vous êtes le premier à ouvrir la porte à une coalition avec la NVA, donc en 2013. Et pourtant, ce gouvernement va se faire sans vous, malgré votre poids électoral, vos succès électoraux et votre bilinguisme, qui est très rare au MR à l'époque. Hein. C'était juste Charles Michel et Didier Reynders à l'époque. Bah, vous restez à quai. Vous étiez jugé justement trop proche de Didier Reynders. Quand on voit le bilan d'un Hervé Jamard, d'une Jacqueline Galland, d'une Marie-Christine Marguem, ça doit quand même être très frustrant pour vous.
Frustrant n'est pas le terme. Vous savez, dans ma manière d'être et de penser, une fois qu'une page est tournée, elle est tournée. Et je regarde alors vers l'avenir et pas vers le passé.
Mais le Jean-Luc Cruc du 11 octobre 2014,
non, mais
il n'est pas heureux ce jour-là.
Non, il n'est pas heureux, c'est vrai, il n'est pas heureux, mais ce n'est pas pour ça que le lendemain, il sera malheureux. J'ai toujours dit, je sais que j'ai payé mon amitié à l'égard de Didier Reynders. Ce n'est pas grave. À refaire demain, je ne demande qu'une seule chose, c'est repayer la même amitié avec Didier Reynders. Ça, ce n'est pas grave. Ce qui aurait été grave, c'est de trahir une pensée telle que celle que nous l'avions avec Didier, avec Pierre-Yves Jolet, avec Daniel Baclen, ce groupe qui, je crois, était plus les héritiers de Jean Gaulle. Après, il y a une cicatrice qui restera. Il y a effectivement une personne à qui j'en voudrais toute ma vie. Elle se reconnaîtra peut-être, elle sait en tout cas qui elle est, mais là, il n'y aura pas de pardon possible. Parce que je crois, au fond de moi-même, que cette personne, et vous avez employé tout à l'heure le terme de bilinguisme, enfin là aussi, je faisais finalement une forme de trait d'union, je crois que cette personne s'est simplement dit, ça, c'est un mec dangereux. Il est capable de me faire de l'ombre. Il a raison. Je l'aurais fait.
Il y a quand même un mystère que j'ai envie de lever avec vous. Comment passe-t-on, en 2013, de premier supporter d'un gouvernement MRNVA, hein, comme disait la gauche, à aujourd'hui? Vous êtes représenté comme le dernier des Mohicans d'un libéralisme social, dernière conscience libérale, si on croit les nombreux hommages que vous avez reçus lors de votre démission. Comment vous avez fait ce tour de magie?
Mais vous évoluez toujours dans votre vie, et c'est ce qui est heureux sur le plan politique. Moi, je sais que certains ont écrit la Bible, les évangiles, et donc, une fois que c'est écrit, il faut s'y tenir. Moi, je ne crois pas. Il faut pouvoir évoluer. À l'époque, avec la NVA, c'était clairement aussi de se dire, on peut, sur un plan social et économique, oser certaines réformes que personne n'a osé. Et je ne regrette rien à ce que vous avez passé comme extrait tout à l'heure, je le répéterai. Je crois qu'aujourd'hui, il y a deux réalités auxquelles on doit bien plus encore faire attention. Un, c'est la lutte contre le réchauffement climatique. Il ne vous aura pas échappé que j'ai eu cette chance, c'est pour moi vraiment une chance d'être ministre du Climat. Ça m'a totalement transformé. J'ai vu, j'ai lu des choses que je n'avais jamais lues ou vues auparavant. Et donc, fermer les yeux là-dessus, c'est simplement fermer les yeux sur le monde de demain, les générations qui vont nous suivre. Et la deuxième chose, c'est ce fossé qui, de plus en plus, se creuse sur le plan social dans la population, entre ceux qui ont beaucoup, et parfois beaucoup de trop, et puis ceux qui n'ont rien. Et ce n'est pas toujours de leur faute. Alors, je connais des bancs en disant, ils n'ont qu'à travailler plus, ils n'ont qu'à faire ci et là en plus. Il y a à des moments où cette vérité peut exister, mais il y a plein d'autres moments où ce n'est pas le cas. Quand vous n'avez rien, partir avec rien, croyez-moi, c'est quand même beaucoup plus difficile quand on a une cuillère argentée là où il faut, ou dorée pour certains même également. Donc, si on ne fait pas attention à ça, cette fracture va un jour exploser. Et mon père m'a toujours dit, quand les gens n'ont plus à manger, quand les gens n'ont plus à boire, et moi je vais vous ajouter, quand il n'y a plus de culture, quand il n'y a plus d'esprit, quand il n'y a plus de formation pour être autonome, il n'y a plus que les révolutions.
C'est un discours que pourrait tenir un président du Parti Socialiste, Jean-Luc Cruc.
Mais je ne sais pas si le président du Parti socialiste osera tenir ce discours-là. Ce que je sais, c'est qu'un libéral doit tenir ce discours-là. Être libéral, ce n'est pas défendre le capitalisme. Il est assez grand pour le faire lui-même. C'est défendre des valeurs de travail, d'équité, mais aussi d'égalité. Nous ne partons pas tous sur la même ligne au départ. Et vous savez, dans ce fameux décret fiscal, dont on a fait un monde, mais moi, ce que je ne pouvais pas entendre de certains collègues, c'est quand on avait l'impression qu'on allait leur prendre quelques économies qu'ils avaient, alors qu'ils en avaient une montagne d'économies. Enfin, il faut quand même rester décent dans la vie.
La droite en Belgique francophone, elle se droitise trop ?
Pas qu'en Belgique francophone. On voit bien que dans toute l'Europe, il y a un mouvement de droitisation qui est là et qui est parfois aussi une réaction à ce que certains considèrent de l'injustice. Il faut pouvoir travailler ça aussi. Quand vous bossez comme des malades et qu'à la fin du mois, ce qui vous reste dans le portefeuille, c'est rien, c'est une injustice, clairement. Il faut oser pouvoir le dire aussi, le vivre. Et il y a des réformes à faire à ces égards-là. Mais c'est bien pour ça que je fais toujours la grande différence entre tous ceux qui ont finalement du produit de leur travail quasiment plus grand-chose et puis tous ceux qui, par chance, à un moment donné, en ont eu beaucoup plus. Écoutez, il faut savoir remettre les pendules à l'heure.
C'est quand même des propos et une ligne politique inaudible quand on est de droite en Belgique.
Mais ce n'est pas parce que c'est inaudible que je ne la tiendrai pas. Moi, j'ai 59 ans. Je ne sais pas combien de temps il me reste encore sur cette terre. Je rassure tout le monde. Ma grand-mère a vécu jusqu'à 107 ans. Mais tant que je serai là, je continuerai à dire ce que je pense. J'essaierai de le faire avec une forme de sagesse, et tout cas pas avec violence. Mais je le dirai. La raison, elle l'emporte toujours.